Bonjour à tous, merci d'écouter Fréquence Mistral. Nous sommes en direct de Pierre Vert pour une émission spéciale animée par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, nous sommes en direct de Pierre Vert dans les Alpes de Haute-Provence et au cœur des journées essentielles, un festival consacré aux femmes qui a démarré le 8 mars et s'achève aujourd'hui, samedi 11 mars. Vous entendrez plusieurs invités durant cette émission, à commencer par Fabienne Crébaza, adjointe au maire de Pierre Vert et organisatrice principale de ce rendez-vous annuel dans son village. C'est grâce à elle que nous sommes là et c'est avec elle que nous allons ouvrir cette émission dans quelques secondes. Marie-Thérèse Bascle, retraitée de l'éducation nationale et Pierre Verdante, nous verrons avec elle qui était Simone de Beauvoir, femme de lettres et de lutte pour les droits des femmes, notamment celui de l'avortement. Souvent dans l'ombre de Jean-Paul Sartre, mais on lui doit des écrits puissants, comme Le deuxième sexe, bien sûr. Que reste-t-il aujourd'hui de cette grande dame et de ses combats ? Réponse dans un instant. Jacqueline Engrave, présidente de Femmes Solidaires 04, association féministe qui a été et est toujours de bien des combats. Je précise qu'elle réalise depuis plusieurs années une émission hebdomadaire sur Fréquence Mistral à Digne, avec des portraits de femmes de notre matrimoine. Frida Kahlo, George Sand, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi, Elsa Triolet, Alexandra David-Nel, etc. Elle évoquera Clara Zetkin, une militante allemande qui a créé la Journée internationale des femmes. Enfin, notre quatrième invitée, Temo Benasser, est artiste, comédienne et plasticienne. Elle crée avec sa propre sensibilité des univers magnifiques. Elle a aussi réalisé pour ce festival de Pierre Vert deux bustes représentant Simone Veil et Marie Curie. Ils sont disposés sur notre plateau, apportant soutien et bienveillance. Merci Temo, à tout à l'heure. Fabienne Crébaza, bonjour Fabienne.
Bonjour Fréquence Mistral, bienvenue à Pierre Vert.
Vous êtes adjointe au maire de Pierre Vert, vous avez créé ce festival essentiel, pour quelle raison ?
C'est un projet que j'avais en tête au début de mon premier mandat, en 2014. Alors j'en ai parlé à monsieur le maire, aux élus, l'idée a plu, je l'ai mûri. Et en 2018 a eu lieu la première édition des Essentiels. Je ne vous cache pas que la disparition de Simone Veil en 2017 a participé au déclic. Il y avait également une demande de la gente féminine Pierre Verdante pour un tel événement.
Donc vous êtes mobilisée avec plusieurs personnes, des associations autour de vous ?
Oui, c'est un événement qui regroupe des associations culturelles, des artistes peintres ou divers locaux.
Pourquoi est-ce que vous êtes sensible à la condition féminine ?
Ben parce que, avant tout, je suis une femme.
C'est évident, mais en plus.
Je pense que c'est par rapport aux inégalités.
On va évoquer tout cela, évidemment, avec nos invités. Est-ce que vous avez senti, lorsque vous avez proposé ce festival en 2017-2018, un entrain, voire un engouement, ou bien des réticences autour de vous ? Quand vous avez présenté cette manifestation ?
Non, un engouement.
Plutôt un engouement ?
En complet, oui.
Qui perdure depuis ?
Oui, mais c'est la quatrième édition.
Une édition qui est consacrée à Simone de Beauvoir, hein, on va en parler bien plus en détail. Vous restez avec nous, évidemment, pendant toute cette émission, Fabienne, et vous intervenez quand vous le souhaitez, comme tous les autres invités, d'ailleurs, hein, n'hésitez pas. À mon côté... Une autre invitée qui est notre deuxième invitée, elle est Pierre Verdante, elle aussi, et c'est avec un plaisir personnel et quasi égoïste que j'accueille Marie-Thérèse Bascle. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour François.
Vous avez évoqué Simone de Beauvoir dans le cadre de ce festival, jeudi ici même. Qui était-elle et que reste-t-il aujourd'hui de Simone de Beauvoir ? Car rien ne prédestinait Simone de Beauvoir, née dans une famille aisée, à être une philosophe et romancière de premier plan et une théoricienne du féminisme du XXe siècle.
C'est dans cet environnement social qu'elle va réfléchir à la féminité, qui pour elle est une construction sociale érigée uniquement par l'homme. Et là, elle provoque le scandale. Mais au lieu de se décourager, elle devient une battante. Elle provoque des scandales énormes, des manifestations contre elle, mais elle insuffle quand même de l'espoir chez d'autres femmes en demandant que la contraception, l'avortement soit possible. Elle dira « La femme doit pouvoir décider de son corps et de sa vie. » Aussi, elle va s'engager dans le combat de son temps, avec, aux côtés de Gisèle Halimi, qui va défendre Jamila Boupacha, qui était une femme algérienne, indépendantiste, militante du FLN. Et arrive mai 68. Oh, le slogan « Liberté, amour, paix », ça fleurit partout. Et Simone est envahie de bonheur, mais il lui semble qu'une chose manque, c'est le combat féministe. Alors elle s'engage dans le MLF, Mouvement de Liberté pour les Femmes. Et elle s'est battue, et les femmes ont quand même obtenu l'autorisation d'ouvrir un compte de banque, en banque, d'obtenir un contrat de travail sans le consentement du mari. Elle s'engage à fond pour l'égalité salariale, homme-femme, pour la criminalisation du viol et de la violence conjugale, pour la légalisation de l'avortement. D'ailleurs, elle fera partie des 343 signataires du manifeste qu'on appelait dit du 343, qui est publié dans le journal Le Nouvel Observateur. Et le titre, c'est « Je me suis fait avorter ». Il y avait Catherine Deneuve, il y avait Jeanne Moreau, enfin plein d'autres célébrités, Françoise Morgan. Et là, elle est comblée parce qu'elle va jusqu'au bout de son idée. Bon, c'est pour ça qu'aujourd'hui, demandez qu'est-ce qu'il reste de Simone de Beauvoir, François, tu le demandais. Eh bien, sa pensée, elle reste présente actuellement, car ses questionnements restent d'actualité. L'enjeu, c'est la place des femmes dans la société. C'est l'égalité des salaires. Donc, elle est pour nous un exemple d'émancipation féminine.
Est-ce qu'on peut dire, Marie-Thérèse Bascle, qu'il y a un avant et un après Simone de Beauvoir ?
Avant, on peut dire que c'est la publication de ses essais, de ses romans, des scandales que ça a suscité, surtout quand elle présente sa relation avec Zaza, cette jeune fille qu'elle a aimée et qui est morte très jeune d'une maladie pulmonaire, avec Olga Kovacevitch. L'amour entre cette jeune fille Olga, Simone et Jean-Paul Sartre. Donc c'est avant, c'est ces scandales qu'elle a occasionnés. Maintenant, on les a un peu mis de côté, ces scandales. Et il nous reste sa pensée libératrice quoi, de la femme.
Alors c'est vrai que c'est l'essentiel par rapport à sa vie privée, mais elle a pas été, elle a été dans l'œil du cyclone, notamment des médias, à cause de sa vie privée. Comme Sartre, comme toutes les personnes qui ont gravi autour d'elle.
Bien sûr, parce qu'elle a eu des amours avec ses étudiants, hommes-femmes, ce qui est incroyable. Elle a eu un amour avec Sartre, qui est un amour très spécial, puisqu'elle refusait le mariage. Le mariage, pour elle, c'était un bout de papier validé par l'État et l'Église. C'était tout. Et donc, elle a signé un pacte avec Jean-Paul Sartre pour qu'il puisse continuer des amours contingents. Elle a eu un amoureux, mais fou, américain, Nelson Algren. Mais là, c'est un amour romantique, magnifique. Mais elle n'a jamais voulu se marier avec Nelson, il en était malheureux. Avant, quand elle vivait, on retient aussi tous ses voyages, parce qu'elle a voyagé à travers le monde. Elle a connu de grandes personnalités. Elle a été pendant 4 mois faire des conférences aux États-Unis. Elle est allée dans la Chine de Mao. Et en revenant, elle s'est écartée un peu du communisme. Quand elle a vu que la Russie envahissait la Tchécoslovaquie, elle a rompu là avec le communisme. Elle n'a pas supporté. Et puis, ce qui l'a emballé, c'est bien sûr Cuba, avec Che Guevara. Alors là, elle disait que c'était vraiment la solution entre le capitalisme et l'impérialisme. Bon, ça, maintenant, on a un peu oublié, quoi. Tout ça, c'est l'avant, hein, de Simone de Beauvoir.
Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est toujours lu avec grande attention, et pas uniquement dans les milieux féministes. Hein. Les jeunes lisent Simone de Beauvoir. Évidemment, avec la proximité de Jean-Paul Sartre et de ses écrits, notamment sur l'existentialisme. Mais c'est vrai que c'est une personne qui a apporté énormément à notre société, qui a aussi provoquer notre société pour pouvoir la faire avancer. Et on va voir probablement avec d'autres invités que des fois il faut savoir provoquer pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir avoir effectivement la possibilité d'ouvrir un compte en banque, de pouvoir avoir du travail, ou tout simplement de pouvoir avoir la liberté d'avorter. Ce fameux manifeste que vous évoquez, on l'a longtemps appelé, et on l'appelle toujours encore, le manifeste des 343 salopes. C'est un mot qui est vraiment ce qui veut dire, et qui a été utilisé notamment par, on dirait aujourd'hui, les masculinistes, pour faire court, et pour dire, mais vous vous rendez compte, ces femmes ont avorté, ben oui, mais elles ont le droit actuellement en France d'avorter, mais elles ne l'avaient pas à l'époque. Et combien de femmes sont décédées pour avoir risqué un avortement dans des conditions des fois abominables, difficiles, et donc c'est un combat... Ah, oui. Compliqué, un combat pour la liberté.
Oui, oui, et ce combat, elle l'a mené loin, parce que quand elle a accompagné sa mère, qui était mourante, eh bien, elle était près d'elle, et là, elle a écrit des essais après contre la difficulté de vieillir, et elle a même demandé que l'euthanasie soit reconnue. Donc, elle était en avance.
C'est une question d'actualité en plus, fin de vie. Voilà. Simone de Beauvoir, alors je signale qu'il y a une superbe exposition dans la salle de polyvalente de Pierre Vert, avec derrière nous justement des photos, des portraits magnifiques de Simone de Beauvoir, qui sont très expressifs en plus. Il y a plusieurs de ses écrits sur une table également, qui sont prêtés par la bibliothèque. Et puis il y a un endroit un peu particulier, le Café de Flore, qui fait partie de l'histoire de la littérature et de la philosophie dans notre pays, philosophie parisienne j'entends, mais en tout cas de mettre le Café de Flore à Pierre Vert, c'est une excellente idée, Fabienne Crébaza, et bravo. Il y a quelques photos qui nous replongent dans cette ambiance à la fois intellectuelle et puis cette mouvance très, très particulière. Merci beaucoup Marie-Thérèse Basque de nous avoir éclairé sur ce personnage ô combien unique qu'est Simone de Beauvoir. À nos côtés, il y a Jacqueline Engrave également. Bonjour Jacqueline, merci d'être présente.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée.
Oui, vous êtes une habituée, on connaît bien votre voix sur notre antenne. Vous présidez l'association féministe Femmes Solidaires 04. Mais avant de parler de Clara Zetkin, votre perception, votre avis personnel sur Simone de Beauvoir?
Ah ben pour moi, Simone de Beauvoir, c'est la grande théoricienne du féminisme. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement son action pour la cause des femmes avec Gisèle Halimi, beaucoup plus que sa vie privée, bien entendu. Et j'invite tout le monde à lire et à relire Le deuxième sexe, bien sûr, mais aussi les mémoires d'une jeune fille rangée, la force de l'âge, la force des choses et tout compte fait, qui sont des livres autobiographiques qui sont parus à la Pléiade en 2018. Voilà, donc c'est important de relire les écrits de Simone de Beauvoir, même sa biographie, c'est très important.
Et donc son message est toujours d'actualité.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas si elle est vraiment lue par les plus jeunes aujourd'hui, mais bien sûr, il faut les inciter à lire Simone de Beauvoir.
Et pas uniquement Simone de Beauvoir, hélas, non. Parce qu'on sait que la jeunesse ne lit pas beaucoup, donc ça c'est une petite égratignure que je fais à nos jeunes. Il faut absolument lire et vous détacher des écrans de temps en temps. Fermons la parenthèse. Jacqueline, ces journées essentielles se déroulent à Pierrevert et toujours autour du 8 mars, déclarée Journée internationale des droits des femmes, un événement que nous devons à une militante allemande, Clara Zetkin, qui fut activiste fin du 19e et début du 20e siècle.
Oui, Clara Zetkin, c'est effectivement la personne qui a initié ce 8 mars. C'est à Copenhague, le 8 mars 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes, que Clara Zetkin, donc enseignante, journaliste et femme politique allemande, a proposé pour la première fois d'organiser une journée internationale pour les droits des femmes. Cette conférence réunissait 100 femmes de 17 pays différents et elle a été élue présidente par acclamation. Donc elle a proposé cette création d'une journée pour mobiliser les femmes partout dans le monde au même moment à une date unique pour sensibiliser à la cause des travailleuses initialement puisqu'elle avait connu dans sa jeunesse les ouvrières des industries textiles et elle avait été horrifiée des conditions de travail de ces ouvrières. Et pour acquérir le droit de vote déjà, puisque tout le monde ne l'avait pas. On rappelle que les Françaises ne l'ont eu qu'en 1944 et elles ont voté pour la première fois en 1945. Et aussi pour l'égalité des sexes. Parce qu'à cette époque, la société allemande considérait que la vie des femmes était réglée selon ce qu'on appelait, ou qu'on appelle toujours, je pense, les 3K en allemand. Kinder, Küche, Kirche, c'est-à-dire enfant, cuisine, église. Donc Clara Zetkin pointait que le mariage et la famille peuvent avoir quelque chose d'aliénant pour une femme. Et elle était favorable au divorce, à l'union libre, au droit de vote, bien sûr, au partage des tâches ménagères, ce que nous n'avons toujours pas. Et elle était partisane du travail des femmes, qui était pour elle et pour aussi Simone de Beauvoir et d'autres, le seul moyen financier à la liberté par rapport à un homme quel qu'il soit, que ce soit son père ou son mari. Donc voilà, ça a été créé ce 8 mars, le 8 mars 1910. Et Clara Zetkin, elle était pacifiste au moment de la guerre de 1914-1915. Et la guerre débute en août 1914, elle a un choc psychologique violent et elle dit, elle croit mourir de désespoir, mais enfin elle se redresse. Elle est emprisonnée pour son pacifisme et comme Rosa Luxembourg, son amie, et Karl Liebknecht. Donc Rosa Luxembourg, elle, a été assassinée au pistolet et son corps a été jeté dans une rivière. En 1920, Clara est élue au Reichstag. Reichstag, c'est le Parlement allemand. Et jusqu'en 1933. Et le 30 août 1932, à 75 ans, elle est chargée en sa qualité de doyenne du Reichstag, de prononcer le discours d'inauguration du Parlement où dominent les chemises noires. Et dans cette enceinte, elle lance courageusement un vibrant appel à lutter contre le fascisme. Mais ce sera sa dernière manifestation publique. Elle est obligée de s'enfuir, de quitter son pays, et elle s'exile à Moscou, fuyant l'Allemagne nazie, et elle meurt le 20 juin 1933 dans des conditions qui n'ont jamais été élucidées. Elle est enterrée sur la place Rouge à Moscou, au pied du Kremlin, le grand palais forteresse, ancienne résidence des stars, siège du gouvernement russe.
Je crois savoir que Zetkine n'est pas son nom, elle n'est pas mariée à un Zetkine, mais pourtant elle a pris son nom. Là aussi on a l'expression d'une célébrité et d'une liberté particulière.
Oui, elle s'appelle en fait Clara Eisner, E-I-2-S-N-E-R. Et elle a pris le nom de Zetkin parce qu'elle a rencontré à Leipzig Ossip Zetkin, un révolutionnaire russe. Et quand il a été expulsé d'Allemagne, elle l'a rejoint à Paris et elle a pris définitivement son nom sans se marier avec lui. Et après le décès d'Ossip, parce que Ossip meurt de la tuberculose en 1889, la tuberculose faisait des ravages à l'époque. Et elle doit élever seule ses deux fils, faisant plusieurs métiers, traductrice, préceptrice, soignante. Et c'est parce qu'elle a vécu cette expérience qu'elle a cette idée que le travail rémunéré, c'est la base de l'émancipation pour les femmes. Je la cite, « Réduire le travail féminin, on dirait aujourd'hui le déconsidérer, le sous-payer, ce qui est le cas, réduire le travail féminin, cela signifie condamner la femme à la dépendance économique, à l'asservissement social et à la prostitution dans le foyer et hors de celui-ci. » Et c'est un thème qui sera développé plus tard par Simone de Beauvoir, précisément, dont on vient de parler. Elle a créé aussi, en 1892, le journal « Die Gleichheit », l'égalité, qui se veut un outil d'éducation populaire des femmes ouvrières et d'information sur leurs conditions de vie.
Comment est-ce qu'elle a pu réussir à mobiliser des femmes, voire des hommes, dans de nombreux pays, car c'est une journée internationale, le 8 mars?
Oui, alors ce n'est pas elle au départ qui a mobilisé tout le monde. Ça a commencé en 1910, comme je le disais, à Copenhague, mais en 1945, il y a plusieurs pays qui ont donc fait cette journée. Mais cette journée a été officialisée par l'ONU en 1977. Et en France, on la célèbre que depuis 1982. Donc ceci pour vous montrer la lenteur des accomplissements en ce qui concerne les droits des femmes et les droits sociaux en général. Ça va lentement. Disait Jean Jaurès, qui lui-même a été assassiné parce qu'il était pacifiste.
Ça va lentement, mais on y arrive et j'espère qu'on y arrivera aussi en ce qui concerne l'égalité de traitement et l'égalité salariale notamment. Jacqueline, cette journée du 8 mars, c'est une avancée pour le droit des femmes, d'accord, mais après il y a le 9 mars, le 10, le 11, tiens, c'est aujourd'hui, puis 364 autres jours. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect réducteur dans la célébration d'un événement et d'une cause un jour par an?
Oui, on pourrait le penser, on pourrait dire pourquoi ne parle-t-on de la situation des femmes que le 8 mars, mais en fait, on en parle tous les jours et on en parle très souvent. Je pense que toutes celles qui sont féministes ou qui travaillent pour la cause des femmes en parlent tout le temps. Voilà, donc on en parle aussi, en tout cas nous à Femmes Solidaires, association féministe, abolitionniste de la prostitution et universaliste, on en parle régulièrement à l'occasion d'autres journées internationales. Par exemple, autour du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre toutes les violences masculines faites aux femmes, les différents aspects de ces violences. On fait des ciné-débats ou des expositions dans les établissements scolaires. Et puis, une autre journée internationale, mais qui est très peu connue, qui est le 6 février, Le 6 février, c'est la journée tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Donc là aussi, on passe des films, soit des fictions, soit des documentaires. Et récemment, le 6 février 2023, nous sommes intervenus auprès de l'école d'infirmières, l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers, qui est à l'hôpital de Digne, devant 60 élèves infirmières, pour parler de ce phénomène, de cette cruelle coutume qui est de mutiler les petites filles dès le plus jeune âge, de couper le clitoris, couper les petites lèvres, l'infibulation également, c'est quelque chose d'affreux. Et on en a parlé devant les élèves de l'IFSI. Voilà les actions qu'on peut mener ailleurs qu'en dehors du 8 mars, bien entendu.
On rappelle que ces manipulations et ces abominables choses qui concernent la féminité sont absolument défendues en France, sont interdites, elles sont pénalisables, bien sûr, mais de temps en temps, on a droit, malheureusement, à des annonces, des informations sur des situations qui sont absolument exécrables. Donc c'est bien de sensibiliser des infirmières de manière à ce que ce qu'on évoque ces choses-là et qu'on en parle, parce que il y a malheureusement des femmes qui sont victimes de ces violences.
Oui,
Jacqueline Engrave, votre association Femmes Solidaires 04 travaille aussi avec plusieurs structures, plusieurs associations, voire des institutions, lesquelles?
Oui, on travaille essentiellement avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles, le CIDFF 04, dont je suis administratrice aussi. J'ai donc deux casquettes. Je suis responsable de l'association Femmes Solidaires, qui est une association féministe militante, mais je suis aussi administratrice du Centre d'information des droits des femmes et des familles. Donc nous faisons des actions ensemble. Et le 8 mars cette année, donc à Digne, nous avons fait passer un film par rapport à la place des femmes dans le sport. Les inégalités dans le sport sont criantes entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Donc nous avons fait un ciné-débat ensemble, CIDFF et Femmes Solidaires. Voilà, donc c'est intéressant, un partenariat intéressant depuis plusieurs années déjà.
Vous avez évoqué les questions de viol dans le milieu sportif, je pense à Sarah Beatball notamment.
Oui, parce qu'on a passé le film Slalom, et ce film Slalom raconte l'histoire d'une jeune skieuse, professionnelle qui a gagné des courses et qui était sous l'emprise de son entraîneur, bien sûr. Donc c'était inspiré du livre de Sarah Beatball, qui a révélé qu'en tant que patineuse, elle avait été abusée sexuellement par son entraîneur pendant des années. Bon, ceci dit, il ne faut pas penser que tous les entraîneurs sont comme ça non plus, hein, bien sûr. Mais effectivement, les violences sexistes et sexuelles existent dans le sport, comme elles existent dans les domaines professionnels, comme elles existent dans tous les domaines, en fait. Et évidemment, c'est la domination masculine s'exprime de cette façon aussi. Voilà.
On a eu droit dernièrement d'ailleurs à des réflexions, j'allais dire, à paroles ouvertes de la part d'un responsable absolument scandaleuse sur le fait de dire « mais chacun d'entre nous a touché une jeune fille ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes sont tous des obsédés, il ne faut surtout pas tomber dans ce travers,
non.
Et encore moins les entraîneurs, et vous avez raison de dire que la majorité des entraîneurs sont des gens bien et qui font que les jeunes filles peuvent s'accomplir dans le sport et qu'elles ne sont pas obligées, excusez-moi du terme, de passer à la casserole. Fermons la parenthèse là aussi. Jacqueline, d'où vous vient cette dynamisme, cette énergie qui est en vous?
Eh bien, parce que moi, je suis scandalisée depuis toujours par le fait que dans notre société, on infériorise les filles et les femmes dès le plus jeune âge. Je suis devenue féministe le jour où on m'a dit, lorsque j'avais 5 ans, que dans la grammaire française, en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Et du coup, on parle presque toujours au masculin. Je ne sais pas si on s'en rend plus compte, mais on parle presque toujours au masculin. Et j'ai été touchée, j'ai été vraiment scandalisée, révoltée par le fait que les filles étaient inférieures aux garçons. Quand on dit à un petit garçon et à une petite fille que le masculin l'emporte sur le féminin, forcément le petit garçon se sent forcément plus fort et la petite fille se sent vraiment diminuée, infériorisée. Donc c'est depuis ce temps-là que je suis révoltée par cette injustice fondamentale et qui, bien sûr, se répercute dans la vie courante, partout et dans tous les domaines de la vie publique et de la vie privée, en France et dans le monde, partout ailleurs aussi. On est dans des sociétés patriarcales qu'il faut changer. Voilà, mon but, c'est de changer la société.
C'est bien, ce qui effectivement veut dire aussi que il n'y a pas uniquement la valeur grammaticale dans cette expression qui est à juger et à voir, et effectivement, il y a tout ce qui en découle. C'est une question d'actualité, là aussi, également. Alors, merci beaucoup, Jacqueline Engrave, de votre intervention. Notre dernière invitée, elle, c'est une artiste. Et je l'accueille aussi avec plaisir. Décidément, je suis gâté aujourd'hui. Bonjour Thémo Benacer.
Bonjour François.
On vous doit ces magnifiques bustes de Simone Veil et Marie Curie. Parlez-nous de vos activités artistiques.
Moi, je dirais que c'est toute ma vie. C'est ma raison d'être, en fait. Je suis née dans une famille nombreuse, dernière. Je suis la 11e. Je suis une fille dans une famille musulmane. Et j'ai eu cette chance-là parce que ça m'a... construit. Il a fallu que je crée mon monde à moi, que je crée ce qui n'existait pas pour moi. J'ai observé tous les autres dans ce qu'ils étaient et ce qu'ils prenaient comme place. 6 frères, 4 sœurs. Quand Jacqueline parle, ça me renvoie à mon passé, à mon enfance, et j'adore ça parce que j'avais oublié d'où me venait tout ce que je suis aujourd'hui.
Vous avez choisi d'être artiste, mais pas uniquement. Hein. Alors vous allez souvent sur les planches, vous faites de la comédie, de l'animation, et puis vous avez même une activité très différente par rapport à l'art.
Oui, c'est vrai. Depuis le Covid, j'ai arrêté le théâtre. Pendant 20 ans, j'ai été comédienne, metteur en scène, je créais des pièces, je mettais en scène des enfants, des adultes. Les personnages masculins, des fois, prenaient justement un mélange de féminin-masculin. J'adorais ça. Jouer de tout ce qui pouvait être joué sur scène, parce que la vie est une grande scène, mais sur scène, on peut tout faire avec son propre regard. Et le théâtre m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. J'ai arrêté avant le Covid, parce qu'il y avait trop d'envie et de choses à créer, à faire, et il fallait faire des choix. Donc j'ai gardé la matière, les ateliers de terre, le modelage, ça je ne peux pas m'en séparer. Et j'ai compris que c'était de l'art-thérapie que je faisais pour le monde, mais pour moi aussi, surtout. Et donc là, j'ai été attirée par tout ce qui était thérapeutique. Donc je me suis formée dans les soins énergétiques et développer l'art-thérapie en pleine conscience. Ça, voilà.
Comment on passe justement de l'art plastique à la thérapie, aux soins?
On ne passe pas de l'un à l'autre, ça se développe. C'est comme une création d'une œuvre. Ça se modèle. C'est l'un qui fusionne avec l'autre.
Vous exercez sur le territoire de Manosque, c'est ça?
Oui. Ouais. Je suis praticienne en Reiki. Et j'utilise plein d'autres outils, lithothérapie, bol tibétain et mon cœur.
Revenons à Thémo, tes mains, c'est votre association. Et vos mains, elles ont créé ces deux magnifiques bustes qui sont devant nous et qui nous parrainent en quelque sorte, ou qui nous marrainent, comme vous voulez. Comment vous avez travaillé pour faire ces bustes? Il faut rentrer dans les personnages, dans Marie Curie, dans Simone Veil. Compliqué.
Il faut ressentir. Ouais. Mais en fait, j'ai eu la chance. J'aurais pas pensé de moi-même à créer Simone Veil si Fabienne ne m'avait pas appelé et proposé de venir lors de la première édition à jouer le jeu, à créer un buste de Simone Veil. Et je ne me suis pas posé la question, est-ce que je vais réussir, pas réussir. Non, c'était bon. Ouais, pourquoi pas. Allez, on y va. Et là, je me suis imprégnée des photos, de son histoire, de ce que je ressentais moi, et ensuite mes mains dans la matière faisaient passer mes émotions, mais aussi la matière me donnait ses émotions. Et petit à petit, la lumière de la personne ou du personnage était à l'intérieur, et puis ça s'est fait, et puis on y va, quoi. Je ne sais pas l'expliquer, c'est le vibrer, je dirais.
Ouais. Vous avez eu des réactions de personnes qui vous ont dit « moi j'aime » ou « moi j'aime pas »
J'ai pas eu un « j'aime pas ».
C'est pas mal, ouais. C'est bien. C'est pas aujourd'hui que vous en aurez un, je vous le signale.
Ah, merci. Par contre, c'est bon de voir à travers le regard de chacun. C'est jamais la même chose, mais c'est bon. Voilà. C'est différent.
Parce que c'est vrai que ce ne sont pas tout à fait des bustes, ce sont des personnalités que vous avez représentées. Donc évidemment, on voit Simone Veil très pensive, ou Marie Curie qui regarde le monde en tant que spectatrice et actrice de la chose scientifique. On est à la fois dans les personnages, mais aussi dans l'œuvre d'art. Difficile de rajouter quelque chose, Témoin,
ouais.
C'est ça.
Ouais. Tout est là et tout appartient à chacun et ses propres émotions. Donc, moi, j'ai juste transcrit et puis c'est là. Et j'aime les toucher et les voir encore.
Et pour moi, faire une émission radio, vous imaginez avec sur le plateau Marie Curie et Simone Veil, mais c'est quelque chose dont j'aurais jamais pensé pouvoir y arriver. Et là, c'est fait. Merci encore et puis bravo Témo pour votre dynamique et puis pour votre art. On a besoin de l'art, il faut pas l'oublier. Alors nous arrivons à la fin de cette émission. Je vais demander à chacune des invitées un petit mot de conclusion, ce que vous avez pensé, ce que vous avez envie de faire passer. Si vous avez des envies, des désirs, n'hésitez pas. On va commencer par vous, Fabienne, l'adjointe au maire de Pierrevert et l'organisatrice, et que je remercie de nous avoir accueillis ici même dans la salle polyvalente de Pierrevert.
Avec plaisir. Ce que je souhaite, c'est que la 5e édition des Essentiels ait lieu et qu'elles soient encore mieux que les quatre précédentes. Alors, qui nous allons honorer l'année prochaine, je ne sais pas encore. Je ferai une réunion, comme chaque fois, participative, avec les associations culturelles, les artistes locaux, et nous déciderons qui sera la cinquième femme qui sera mise à l'honneur.
C'est bien, c'est une bonne chose. On peut rappeler aussi, Fabienne, que cet après-midi, la salle polyvalente est ouverte à Pierrevert. Il y a plusieurs animations aussi.
Oui, donc à 14h, atelier portrait avec Bernard Locher de l'association Rêve d'art. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Tout a été gratuit pendant ces 4 jours. À 18h, chorégraphie présentée par l'association Évidence, avec ses danseuses. Ensuite, suivra démonstration de tango, présentée par l'association Tango en Haute-Provence. Et en même temps, il y aura des croquis en live par les artistes de l'association Rêve d'art. Rappelons aussi que les 3 précédents soirs, nous avions notre artiste peintre local, Gabriel Morini, qui pendant les spectacles peignait en live. Voilà, et puis donc on finira par un apéritif de clôture, et en buvant avec modération bien sûr.
Évidemment, et surtout du vin de Pierrevert, parce que nous sommes dans un village viticole. Merci beaucoup, Fabienne, et merci de votre accueil et puis de votre présence sur ce plateau. Marie-Thérèse Bascle, un mot de conclusion.
Bien, je suis très contente d'avoir travaillé sur Simone de Beauvoir, parce qu'au début, quand Fabienne l'a proposé, j'avais un recul, parce que j'avais pas aimé tellement son livre « Le deuxième sexe ». Et puis, bon, j'ai dit oui. Et en fait, ce travail m'a beaucoup plu. Parce que j'ai pu mettre en parallèle les événements, les grands événements qui ont eu cours tout le long du XXe siècle, et la vie de Simone de Beauvoir, elle est interférée. Et ça, ça m'a plu, ce travail. Alors, je remercie Fabienne d'avoir insisté. Merci. Et dans la salle, l'autre jour, plusieurs personnes m'ont dit « Ah, ben on lira maintenant Simone de Beauvoir ». Alors, il y a l'espoir.
Belle victoire. Belle victoire. Et puis, en même temps, vous nous avez fait partager aussi ces connaissances et puis cette personne incroyable qui était Simone de Beauvoir. Et j'allais dire même qui est Simone de Beauvoir. Comme ça veut dire qu'elle est toujours vivante parmi nous et son message est toujours
et
présent.
Et son image. Exactement. Avec son bandeau.
Exactement.
On ne peut pas l'oublier.
On voit ces magnifiques photos qui sont derrière nous. Donc, si vous venez à Pierre-Vert cet après-midi, profitez-en, passez par le Café de Flore et puis à côté sur ces images de la bibliothèque. Un petit mot de conclusion artistique.
Je dirais, et merci de ce moment de partage.
Là. On arrive à la fin de cette émission. Je vais en profiter d'abord pour remercier encore une fois Fabienne Crébaza et la ville. Pardon, j'ai oublié Jacqueline, vous étiez de côté et tellement, tellement discrète. Ça alors, Jacqueline, pardon, toutes mes excuses. Mot de conclusion
oui,
à vous.
Moi, je voulais juste rappeler que j'ai fait le portrait radiophonique de Clara Zetkin à la radio Fréquence Mistral avec Odile Frison de Digne. Ce portrait de 10 minutes, c'est un portrait synthétique, a été fait, je crois, fin 2021. Donc on peut le retrouver, je pense, si on s'intéresse de plus près à Clara Zetkin. Et puis, en conclusion, je voudrais inviter toutes et tous à se mobiliser encore et toujours et à amplifier cette mobilisation et amplifier les actions pour faire évoluer les mentalités vers une société libérée des rapports brutaux de domination entre les sexes. Parce que on peut rappeler aussi que l'agence femme de l'ONU a calculé qu'au rythme actuel, il faudra près de 300 ans pour atteindre l'égalité des genres. Donc c'est intéressant de se mobiliser, c'est même urgent en fait de se mobiliser toutes et tous, les plus âgés et les plus jeunes, pour cette cause.
Et en même temps, je pourrais rajouter que la cause féministe n'est pas uniquement l'affaire des femmes. Il y a des hommes aussi qui doivent absolument apporter leur pierre à l'édifice et de temps en temps aussi la lancer, la pierre. Ça ne fait pas de mal aussi. Et vous vouliez rajouter une petite réflexion très particulière avant de nous quitter.
Simone de Beauvoir et sa célèbre réflexion, « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. »
Merci Simone et merci Fabienne. Merci à toutes d'avoir participé à cette émission. J'en profite aussi pour remercier mes techniciens Manu et Olivier. Je rappelle aussi que cette émission sera disponible, comme toutes nos émissions, en podcast sur notre site fréquencemistral.com.